Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
1967-1975, la censure capote.
Je lis La Religieuse, ça pouvait aussi bien faire un script de cinéma qu'une pièce de théâtre. Et on monte la pièce.
Et là, j'ai vu apparaître un personnage avec une grosse moustache qui s'appelait Monsieur Hugon et qui était inspecteur de police du bureau des spectacles à la préfecture de police, qui est venu en me mettant en garde. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez le faire? Je lui ai dit, mais enfin, écoutez, si on démontre que sur une scène de théâtre, La Religieuse ne crée pas d'incident, faire le film ne gênera personne. Et il m'a rétorqué, pas du tout, parce qu'entre 250 places au studio des Champs-Élysées et des milliers de places sur les Champs-Élysées, il y a une grande différence, et c'est cette différence numérique qui fera que votre film sera interdit.
L'affaire au très long cours de La Religieuse marque un tournant dans l'histoire tranquille d'Anastasie. Jusque-là, la commission de contrôle prononçait ses verdicts sans guère être contredite. Et voilà que la campagne déclenchée autour de l'adaptation de Diderot réunit les plus grands noms du cinéma. On vient d'entendre Jean Gruaud, le scénariste. Elle est entretenue 2 ans durant et la profession n'a qu'à se féliciter de son résultat. Une victoire en race campagne de La Religieuse sur les pères censeurs. Il faut aussi se représenter le rôle de la demande de la jeunesse de cette époque. La majorité sexuelle est à 15 ans mais sont interdites sur les écrans les parties de « ça va, ça vient » pour parler comme Orange Mécanique. Il n'est d'ailleurs pas que les scènes de sexe chaudes qui soient dissimulées, mais aussi bien des images qui inciteraient aux désordres sociaux et politiques. On comprend que cette pression sociale ne cesse de se renforcer. En 1969, la décision finale avant projection passe du ministère de l'Information au ministère des Affaires culturelles, et celui-ci est assez habitué aux positions paradoxales. Il y aura bien encore un retour de flamme, la dernière année de la présidence Pompidou, ultime partie de « ça va, ça vient », en tout cas en 1974, quand Jean Royer prêche la pruderie dans sa campagne présidentielle, le visa va être donné à Emmanuel. Il est vrai que c'est le film le plus commercial qui soit, le conservatisme est peut-être passé du côté des soi-disant provocateurs.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Frédéric Hervé, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Frédéric Hervé, beaucoup de livres, souvent provocateurs, sur l'histoire de la censure et des livres qui fonctionnent un peu en écho, qui se répètent les uns les autres. Le vôtre, très différent. Il paraît chez Nouveau Monde, il est issu d'une thèse. Il s'appelle « Censure et cinéma dans la France des Trente Glorieuses ».
Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler donc évidemment à partir des archives de la censure, alors que parfois on étudie la censure à partir de ce qu'il y a dans la presse à l'époque, et surtout de travailler à partir des films eux-mêmes, c'est-à-dire en fait de faire de l'analyse filmique. Je crois qu'il faut partir des images pour comprendre ce qui a pu heurter les censeurs.
Vous avez étudié quelques 540 dossiers, vous employez le mot censeur. Attendez, ça s'appelle officiellement la commission de contrôle, c'est présidé par un conseiller d'État, il y a des représentants du gouvernement, il y a des représentants de la profession, et puis comment dire, des forces vives, pardon, des familles de pensée de la société.
Il y a ce qu'on appelle des experts de la jeunesse, qui parfois n'ont d'experts que le titre, mais qui ont été nommés à cette place pour départager les représentants ministériels et les représentants de la profession, c'est-à-dire pour créer un troisième collège qui apporterait, pensait-on, un petit peu de scientificité dans cette affaire.
Président numéro un de la période que nous allons étudier, Henri de Segogne, qui est un peu en fin de mandat, grand alpiniste, grand spécialiste du patrimoine, et puis un personnage, son suppléant, qu'on va voir souvent au premier rang, que vous citerez, j'imagine, à plus d'une occasion, Robert Touzerie, et qui est un personnage haut en couleur. La Religieuse, au départ de notre période, condense l'orage parce que les adversaires sont déterminés de part et d'autre à en faire une affaire.
Oui, les adversaires de longue main, c'est-à-dire que ça fait 4 ans que Jean-Luc Godard est derrière tout ça, qu'il a convaincu Jacques Rivette de faire de la pièce un film, de mettre en scène la pièce puis de tourner le film, sa compagne Anna Karina dans le rôle titre, Georges de Beauregard pour financer le tout.
Grand producteur.
Et son ami Antoine Bourseiller, on l'a entendu tout à l'heure, qui accueille la pièce dans son théâtre des Champs-Élysées.
Avec l'adaptation, la première adaptation pour le théâtre de Jean Gruaud qui vient de disparaître. La commission de contrôle qui est la fin prête, parce qu'il y a une campagne des milieux cléricaux, j'ai dit cléricaux, hein, pas catholiques, elle dispose de quels moyens? d'intervention, quelle est la panoplie dont elle dispose?
L'arme absolue, c'est évidemment l'interdiction totale, mais elle a d'autres cordes à son arc. Elle peut interdire aux mineurs, et à l'époque, une interdiction aux mineurs coûte très cher à un producteur. Ça lui enlève 30 à 40% des recettes, parce qu'un film interdit aux mineurs ne va pas en province, en tout cas pas à la campagne, uniquement dans les salles parisiennes et les grandes villes. Il y a les coupures, bien évidemment, et puis il y a une autre arme aussi très douloureuse sur le plan financier, qui est l'interdiction à l'exportation, lorsqu'on considère que le prestige de la France est en cause.
Première décision de la commission de contrôle concernant la religieuse, quelle est-elle?
C'est une interdiction aux moins de 18 ans, réitérée par deux fois, c'est-à-dire que par deux fois, les censeurs refusent d'interdire totalement ce film, comme le leur demande le ministre de l'Information et à travers lui, en fait, le général de Gaulle.
Oui, alors, l'Élysée a joué un rôle. Le ministre de l'Information, à cette époque, on est au milieu des années 1960, c'est lui qui, en principe, sauf s'il est inspiré par le général, a la dernière main, c'est Yvan Bourges à l'époque.
C'est lui qui chapeaute la commission, qui chapeaute d'ailleurs le contrôle aussi à l'époque de la radio et de la télévision, donc le cinéma fait partie de ses attributions. Et effectivement, une fois que cette commission qui est consultative lui a donné un avis, il peut, s'il le souhaite, prendre ses responsabilités et interdire un film ou aggraver les décisions de la commission.
L'affaire de la religieuse en vient à l'Assemblée nationale en 1966.
La parole est à M. Germain. Dans le rapprochement que vous avez fait entre le cinéma et la télévision, vous n'ayez pas parlé de l'émission des Cathares, qui a passé sans carré blanc et dont la première scène représentait une tentative de viol d'une jeune fille par un ecclésiastique dans un champ. Je n'invente rien, je l'ai vu. Monsieur l'abbé Laudrin, j'ai...
Monsieur l'abbé Laudrin, n'interrompez pas l'orateur. Vous aviez déposé une question écrite. Vous n'aviez qu'à la maintenir si vous vouliez parler.
Je peux vous montrer, monsieur l'abbé Laudrin, le double d'une lettre du révérend Père Motte. Ah, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs églises dans l'église, vous m'excuserez.
Vous m'excuserez. Monsieur l'abbé Laurent,
je ne connais pas la maison, alors. Effectivement. Je cite donc comme personnalité religieuse...
La parole est à monsieur Germain seul.
Le révérend Père Motte et le Père Lepoutre.
Je vous en prie, monsieur Laudrin.
Etc. Alors, monsieur Laudrin, l'abbé Laudrin, ça c'est un personnage très haut en couleur aussi, genre Soutane et Godillot, députés de Bretagne. Il y a des abbés dans la commission de censure.
Quand on gratte les affaires de censure, on finit toujours par tomber sur un abbé. Et notamment dans l'affaire de la religieuse, c'est une affaire qui a été déclenchée en fait par un abbé qui s'appelle l'abbé Jean Pillan, qui siège dans la commission de contrôle des films, qui siège dans la commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse, qui siège dans la commission des programmes de l'ORTF, qui siège partout, et qui, voyant le scénario, s'en a fait qu'un tour, et c'est lui qui a sonné le tocsin, qui a mobilisé le cardinal Feltin,
l'archevêque de Paris.
Et qui, lui, est allé trouver le général de Gaulle.
À cœur vaillant, rien n'est impossible, parce que c'était le représentant des cœurs vaillants dans la commission.
D'où sa nomination en tant qu'expert de la jeunesse.
Ça a été une victoire en race campagne, quand même, pour les partisans de la religieuse, au total. Et puis, se sont enchaînées l'affaire de la défense de la cinémathèque avant mai 68, les états généraux du cinéma après mai 68 qui réclament la fin de la censure. Alors, votre livre a le mérite, Frédéric Hervé, de raconter évidemment ces épopées auxquelles vous enlevez leur contenu légendaire, mais de dire aussi que à la même époque, il pouvait se produire des faits beaucoup moins connus, parce que selon que vous serez puissant ou misérable, j'aimerais que vous nous parliez de José Benazeraf maintenant.
José Benazeraf a réalisé un film qui s'appelle Joe et Caligula, qui est interdit totalement quelques semaines après la religieuse que les censeurs ont refusé, eux, d'interdire. C'est le ministre qui l'a fait. Un peu comme si les censeurs avaient voulu dire au ministre « Voilà un film qui mérite l'interdiction totale ». Et ce film est resté aux oubliettes pendant plusieurs années. Et cette fois, la profession est restée totalement indifférente au sort de ce pauvre José Benazeraf.
Si je vous cite ceci, je me demande à quoi on pense quand on nous présente un film pareil. Ça, que de l'érotisme et de la violence, c'est de qui?
L'abbé Pillan.
L'abbé Pillan, toujours lui à cœur vaillant, rien d'impossible. Enfin, José Benazeraf est resté toujours mordant, il a campé sur ses position et il disait à l'entendre dans cette interview qu'elles étaient tenables.
Mon cinéma, moi, démystifie le cinéma. Ça irrite beaucoup les gens de savoir qu'on peut réaliser avec des acteurs de second plan des films qui ont une audience et pas seulement au midi minuit. Maintenant, si j'ai trouvé ce circuit-là, c'est parce que je fais des films qui provoquent l'interdit. Et du fait qu'un film est interdit pour sa violence, pour son sexiness, eh bien, il a un réseau de salles limité. C'est plus un jugement, si vous voulez, de censure qu'un jugement de qualité qui fait que mes films sortent dans ces circuits-là.
C'est quelqu'un de très important, votre mari ?
Il écrit. Que faites-vous ce soir ? Parfait, vous dînez avec nous et vous restez avec nous ce soir. Venez, je vais vous habiller.
Je ne veux pas de robe du soir. Je n'ai jamais porté de trucs comme ça, moi. Je voudrais vivre nue. D'abord, je ne me maquille jamais.
C'est vrai, tu es belle. Tu n'as pas à lutter pour l'être. Tu es spontanément belle.
Regarde, j'ai la chair de poule.
Voilà, un peu de lesbianisme, et puis ça nous amènera peut-être avec le mari de la dame la plus âgée à du triolisme, et c'est toujours sur une plage. Enfer sur la plage. Il aime bien les plages, Benazeraf. C'est intéressant ce qu'il dit quand même des réseaux segmentés. Parce que vous nous expliquiez, Frédéric Hervé, que quand on était interdit au moins de 18 ans, on pouvait pas aller dans les campagnes et dans les villes de province. Mais il y a des salles où on peut tenir avec un film interdit au moins de 18 ans pendant des mois et des mois.
Ça devient vrai justement à partir de 1965-66. C'est les premiers craquements de l'ordre gaullien. Effectivement, à partir de ce moment-là, il y a un public jeune qui aide beaucoup la société adulte, qui est en recherche d'autre chose. Et donc il y a des salles, mais notamment dans les grandes villes quand même, toujours dans les grandes villes, qui accueillent les films interdits aux moins de 18 ans. Donc ça devient un créneau commercial. Benazeraf l'a très bien dit. Et il l'exploitait à fond, ce créneau.
Alors, dans la jurisprudence de la censure, vous notez qu'à peu près pour la longue période des 30 Glorieuses, pas seulement pour celle qui nous concerne, 75-75, il y a plus du tiers de la jurisprudence qui concerne, disons, les affaires de sexualité. La politique, beaucoup moins qu'on ne pense.
Beaucoup moins qu'on ne pense, à part à la Libération avec les films communistes. Mais dans l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire après 65, 67, ça devient un petit peu un lieu commun de tenir dans les films des propos anti-bourgeois, anti-État, anti-système, anti-police. Oui, c'est beaucoup plus accepté.
Et les questions de société ? Enfin, je ne sais pas ce qu'on désigne là-dessous, je sais pas, la famille, la drogue...
Ces questions-là, elles sont présentes et elles posent toujours problème, et elles sont à l'origine d'un certain nombre d'interdictions dans les années 70, justement.
Est-ce qu'on peut aussi distinguer entre les films français et les films étrangers ? Parce que les films étrangers, ils sont soumis au visa de censure, eux aussi.
Absolument, mais les films étrangers, disons que l'intimidation fonctionne beaucoup moins, parce que un réalisateur étranger et son producteur ont déjà amorti le film. Donc l'interdiction, s'il y en a une, va être très désagréable et va leur coûter de l'argent, mais elle ne peut pas tuer la société de production. Alors que pour un film français, c'est vraiment ça qui est à l'ordre du jour, c'est la faillite pour un petit producteur. Donc là, il y a une crainte et une autocensure bien plus forte.
On avance dans la période, nous voici maintenant avec un film américain en 1969. Ce film, c'est Easy Rider, qui est un road movie, un des tout premiers road movies, non ?
C'est un road movie et en fait la contre-culture américaine va produire énormément de road movie parce que c'est vraiment le genre qui permet de refaire la route, généralement à contresens, là ici d'est en ouest, pour retrouver les valeurs d'origine et remettre en cause la société américaine.
Le film va arriver devant la commission de contrôle, auréolé de son succès à Cannes, pour vous rappeler les souvenirs de ce long métrage de Dennis Hopper, voici... La musique très reconnaissable, Steppenwolf. Et patience, ensuite, la scène qui a fait s'étrangler le père Pillon et tous les pères censeurs. Get your motor running.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
C'est de l'herbe, ça.
Tu veux dire la marijuana?
Oui.
Oh, ça se présente comme ça? Laisse-moi regarder.
Vas-y, Georges, allume-la.
Ah non, c'est hors de question. Je peux pas, j'ai déjà assez d'embêtements avec l'alcool. Alors maintenant, je serais foutu si je prenais goût à la drogue.
Mais c'est sans danger.
Tu dis que c'est sans danger. Bon, d'accord. Comment ça se fume, ça?
Tiens.
Eh ben, ça a un goût plutôt agréable, mais je pense pas que ça me fera de l'effet. J'ai pas une telle habitude de l'alcool.
Il faut garder la fumée plus longtemps dans tes poumons, genre.
Ah. Easy Rider, musique, feu de camp, c'est vraiment sans danger? Parce que les scènes d'échange, de joint, peuvent être suivies en plus de scènes d'hallucination. Alors là, les pères censeurs, que disent-ils? Ils crient.
Oui, ils interdisent totalement le film. Et le film est ensuite libéré grâce à la coupure de la scène que vous venez de passer. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'on a laissé dans le film une scène de prise de cocaïne et une autre de prise de LSD.
Oui, mais ça, vous soupçonnez la société de production américaine de ne pas avoir livré à la commission de contrôle française une version intégrale.
C'est un point d'interrogation, je n'en sais rien. Je suis simplement étonné qu'on laisse les drogues dures et qu'on enlève la marijuana. Mais...
Alors attendez, l'interdiction totale, c'est très rare. Bon, elle n'a pas été appliquée dans ce cas précis en 1969, et c'est très rare au total.
Alors, très rare, c'est-à-dire il y a quand même, sur toute la période 1945-1975, 405 films interdits.
Oui, mais dans la période qui nous intéresse, c'est rarissime.
C'est là qu'il y en a le plus. C'est là qu'il y en a le plus, oui. C'est-à-dire, mais c'est souvent des interdictions totales qui ne durent pas très longtemps, contrairement à celle de Joey Caligula. Bon. Mais il y en a quand même en moyenne une bonne douzaine par an. C'est-à-dire, on vit au rythme d'une douzaine de films interdits par an.
Oui, sauf que là, vous venez de nous dire, il faut que vous éclaircissiez cette question, que le ministre de l'Information, c'est Joël Le Teul, à l'époque, le patron de François Fillon, son attaché parlementaire, qui a une position très différente de celle d'Yvon Bourges à l'époque de la religieuse. Il laisse faire, alors?
Joël Le Teul, le dernier ministre d'information de la République, libère le film au prix d'une coupure, alors que les censeurs, eux, étaient bien décidés, depuis le début, à ne jamais laisser sortir aucun film incitatif dans le domaine de la drogue.
Donc le dernier ministre de l'information qui a la responsabilité de la commission de contrôle et la décision finale après sa proposition, met de l'eau dans son vin. Et ensuite, ça va passer le contrôle au ministère des Affaires culturelles, qui va avoir de tout autre principe, non?
Ça dépend, mais on a souvent eu, par exemple, si on pense à Jacques Duhamel, on a souvent eu des ministres qui ont été plus cléments que leur commission de contrôle.
Alors nous voici maintenant au moment de Jacques Duhamel, grand ministre des Affaires culturelles et puis aussi leader politique important, parce que le centre, à l'époque, qu'il représentait dans le gouvernement, ça pesait lourd. On n'a pas parlé... On a dit un mot de la sexualité, on a dit un mot des questions politiques, de la drogue. On n'a pas parlé des questions de violence. Et là, pendant le ministère Duhamel, va se poser la question des films de violence à plus d'une reprise. La violence.
La violence, c'est quelque chose qui est normalement banni par la censure, qui apparaissait beaucoup dans les années 50 dans des films très codifiés, par exemple les films de gangsters. Et ce qui pose problème aux censeurs dans les années 60 et dans la période qui nous intéresse, c'est que la violence devient la violence de tout le monde, et notamment des jeunes. C'est-à-dire que c'est plus la violence, on pourrait dire, professionnelle de gens spécialisés dans la violence, c'est la violence de la société qui est dépeinte.
Mais il y a aussi les films de karaté à cette époque-là. Alors le plus difficile, j'imagine, pour un censeur, c'est un film de karaté détourné par les maoïstes. La dialectique peut-elle casser des briques? C'est un titre dont on se souvient peut-être. Alors on voyait des scènes de karaté et il n'y avait que des formules du président Mao dans le texte. Enfin, dans le texte.
Alors je ne connais pas ce film, mais pour les films de karaté en général, ils arrivent en France en 1972 et ils n'ont pas trop de problèmes avec la censure. Là encore, parce que c'est très codifié. On est dans un genre qui est très balisé. Donc ça ne prétend pas dépeindre la société française.
Tandis que, autour d'Orange Mécanique, qui ne prétendait pas décrire la société française, mais la société occidentale et le comportement de beaucoup de jeunes dans la société occidentale, un film signé Stanley Kubrick, et ben, autour d'Orange Mécanique va se mettre en place, dites-vous, Frédéric Hervé, une étrange mécanique. Voilà la première des innombrables scènes de violence et d'agression que comporte le film.
La ma fière cité, où les femmes sont des beautés, vit une jolie fille du nom de Molly Malone. Quand elle pousse sa petite charrette à travers Velle et Courette, criant des moules, des crevettes.
Une chose que je n'ai jamais pu supporter, c'est de voir de vieux clochards poicres et sous-perdus bramant les vieux refrains poicres de leurs ancêtres en faisant blop-blop entre les deux, comme s'ils avaient tout un bastringue poicreux dans leur vieille tripe pourrie. Je ne peux pas supporter de voir les types comme ça, qu'ils soient jeunes ou âgés, mais plus spécialement les vieux tout ridés comme celui-ci.
N'auriez pas une pièce de trop, mes frères ?
Et déjà une chute, et on ne va pas compter les morts et les viols dans ce film. Il y a tout ce qu'il faut pour justifier, selon la jurisprudence des pères censeurs, des coupes et même bien davantage.
Et même une interdiction totale, et pourtant le film s'en sort très bien, avec une interdiction au moins de 18 ans seulement. Parce qu'il arrive en France déjà auréolé de son succès, parce que c'est un réalisateur reconnu, et parce que dans cette période, les censeurs ont commencé à prendre en compte la qualité des films lorsqu'ils prononçaient leurs décisions, ce qu'ils se refusaient obstinément à faire, par exemple à La Libération. Alors il y a des films qui s'en sortent grâce à leur qualité, c'est le cas ici d'Orange Mécanique. Il y en a d'autres qui, au contraire, voient les sanctions aggravées à cause de leur qualité, c'est-à-dire qu'on juge qu'ils sont d'autant plus dangereux qu'ils sont bien faits. C'est le cas, par exemple, de Bonnie and Clyde.
Oui, mais la commission de censure opère de plus en plus sous le regard de l'opinion. On va prendre un dossier que vous explorez longuement dans Censure et Cinéma, votre livre aux éditions Nouveau Monde, Frédéric Hervé, c'est Le souffle au cœur de Louis Malle. Souvenez-vous, un été, Léa Massari a emmené son fils de 15 ans, fragile, il a un souffle au cœur, dans une ville de cure. Et un soir, pas comme les autres, il rentre tard à l'hôtel et, un peu ivre, elle se jette sur son lit, refusant que son fils allume la lumière.
Oh là là là, oh la tête me tourne. Oh, ah, c'est une belle invasion des Français le 14 juillet. Je voudrais les fêter plus souvent.
On recommence demain si tu veux.
Ah non, non, pas tous les soirs. Oh, je suis morte. Pas la force de me habiller.
Je vais t'aider.
Je ne veux pas que tu sois malheureux. Et même que tu regrettes. Nous nous en souviendrons comme des moments très beaux qui ne se reproduira jamais plus.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Rien. Nous n'en parlerons pas. Ça sera un secret entre nous. Et quand j'y repenserai, ça sera sans remords, avec tendresse.
À la demande de la commission de contrôle de la marge de l'histoire, Jacques Sigan, notre réalisateur, a réduit une séquence de 1:22 à 0:46, mais on a compris.
On a compris ce qui se passe entre les deux morceaux, c'est-à-dire l'inceste. Et ce que nous dit le film, et je crois que plus personne ne pourrait dire ça aujourd'hui, c'est que l'inceste, c'est bien. C'est-à-dire que là, le jeune homme n'est pas du tout traumatisé. Au contraire, ça fait de lui un adulte, et ça lance sa vie sexuelle, puisqu'après, il couche avec une de ses congénères du même âge que lui. Et ce qui est étonnant avec ce film, c'est de voir la façon dont il a été accueilli par la presse, c'est-à-dire très très bien. Ça dit l'air du temps de ce début des années 70. Même un journal comme La Croix voit là-dedans un très beau film.
Vous avez l'air étonné.
Oui, je suis un petit peu étonné, parce qu'aujourd'hui, disons, on, avec les affaires de pédophilie, on est un petit peu moins tolérant vis-à-vis des relations entre adultes et enfants ou adolescents.
C'est-à-dire qu'on va mettre en tête de gondole 50 nuances de Grey, mais un film où un adolescent de 15 ans verrait des pensées libératrices, disait le Canard Enchaîné, à propos du souffle au cœur, le traverser serait interdit. Ben, non, on ne le tournerait pas, on n'oserait pas le tourner.
Je pense qu'aujourd'hui, personne ne le ferait, parce qu'on considère, sans doute à juste raison, que l'inceste est quand même un trauma.
Ah, j'aime bien quand vous parlez comme l'abbé Pian.
J'essaye.
À juste raison.
Jacques Duhamel était donc très tolérant, qui n'a pas réagi particulièrement au moment de la sortie du Souffle au cœur. Alors son ministère s'est interrompu parce qu'il était malade, qu'il est mort prématurément. Il y a eu quand même une partie de « ça va, ça vient », comme on dit dans Orange Mécanique, après Jacques Duhamel. Maurice Druon, ministre des Affaires culturelles, lui, il n'hésite pas à manier la censure.
Non, il se paye une petite affaire de la religieuse à lui tout seul qui porte sur le film Histoire d'A, qui fait de la propagande en faveur de l'avortement. Un film qui a été réalisé à la demande du planning familial.
73-74, c'est aussi le moment, dernier gouvernement de Georges Pompidou, présidé par Pierre Messmer, où le ministre du Commerce, c'est Jean Royer. Quand Pompidou meurt prématurément, lui aussi, Jean Royer décide de donner son cœur à la France. Et voilà que les spectatrices de ces meetings, nous sommes à Toulouse en avril 1974, sont même presque disposées à lui offrir leur corps.
En fait, il faudra que, à la fin de ce cycle spécial, le baccalauréat puisse être passé en même temps qu'un certain nombre d'autres examens et concours.
Le bilan de ces 35 minutes, des fils de micro coupés, les projecteurs dérobés, des bagarres jusque devant l'estrade, 50 fauteuils cassés. Jean Royer décidait alors de quitter la salle et, malgré la protection de son entourage, il était à son tour bousculé.
Je ne sais pas si on a tout bien compris. Royer, Puceau, le peuple, rat, ta peau.
Oui.
Et c'est ce même jour d'avril 1974, quel paradoxe, que le film Emmanuel passe en sous-commission de contrôle.
Voilà, il est vu pour la première fois par quelques censeurs qui préparent la commission plénière. Et déjà, sur ces personnes-là, le charme des images publicitaires de Juste Jacquin opère. C'est-à-dire qu'il trouve des qualités à ce film très esthétisant.
Alain Cuny, qui en a un des protagonistes, disait « Mon métier d'acteur, c'est la prostitution. Alors là, je suis allé jusqu'au fond du puits, jusqu'au fond de l'enfer. » Mais c'est pas du tout comme ça qu'on regarde quand on est spectateur Emmanuel, et même quand on est censeur en 1974, parce que la demande consumériste d'érotisme est devenue très forte.
Oui, il y a une forte demande de transgression et c'est ce qui explique en grande partie le succès de ce film. C'est aussi le fait que l'actrice principale, Sylvia Christel, est très rassurante, notamment pour les hommes. En cette période de montée du féminisme MLF, elle est très rassurante puisqu'elle est en fait infiniment soumise. C'est-à-dire que ce film, c'est vraiment une entreprise de récupération des mots d'ordre de mai 68. Il faut libérer la sexualité, il faut libérer la femme, mais en fait, là, dans le film, la libérer, ça veut dire la soumettre au désir et au pouvoir des hommes.
L'absorption de la transgression.
Voilà.
Alors, il nous reste, mais Jacques Sigal m'interdit parce que l'horaire est dépassé, à parler du moment du cinéma X. On n'a pas le temps, c'est une coupe absolument volontaire,
dommage.
Ce sera pour un autre épisode.
Une coupure de
Frédéric
plus.
Hervé, votre livre Cinéma et Censure dans la France des 30 Glorieuses. Bah, avant qu'on entende le générique, il faut quand même qu'on dise que les pères censeurs peuvent être remerciés, c'est des vrais coproducteurs dans le cinéma.
Moi je défends l'idée, oui, qu'ils ont coproduit à peu près tous les films sortis en France depuis la Libération, dans la mesure où ils ont créé des interdits. Et donc, ils ont façonné la création des cinéastes.
Qui est le plus censeur parmi nous? Jacques Sigal, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, qui ont préparé cette émission. Alain Gadan pour la technique.